Mortimer! Ah, mon cher Black! Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal!
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages!
Bien, monsieur!
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre!
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Barrez à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant!
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous parlez avec Tanguy.
Captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant. Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. L'émission de ce soir, réalisée par Christian, sera entièrement consacrée à la star de la BD Rock, le créateur de l'insupportable Manu, de Momo le coursier et surtout de Lucien, le rocker à bananes le plus célèbre de la bande dessinée. J'ai nommé Franck Margerin. C'est le portrait d'un auteur aussi sympathique que ses personnages que Captivant vous propose donc ce soir. Nous retracerons son parcours en sa compagnie. Franck Margerin viendra en effet à notre micro pour répondre à nos questions.
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens, ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande. C'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Quand je débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Quand je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE, vous propose ce soir une rencontre avec Franck Margerin, le créateur de Lucien, le rocker emblématique des années 80, la banane la plus célèbre de la bande dessinée, mais également de l'insupportable Manu et de Momo le coursier. Franck est né le 9 janvier 1952 à Paris. En 1968, l'impérieux appel de la mine le jette sur les bancs des arts appliqués. Et il s'applique. Mine de plomb, mine de rien, le jeune Margerin fait ses classes et creuse son trou. Accessoirement, il forme avec son condisciple Denis Cyr le groupe de rock Los Crados, qui deviendra plus tard le fameux Dennis Twist. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Après ses études, Franck travaille dans la publicité, mais il a dans un coin de sa tête le rêve de devenir auteur de bande dessinée. Mais il cherche toujours son style, hésitant entre la science-fiction Henri II et le néo-réalisme Molière charentaise. Sa première BD, une histoire courte en noir et blanc, est publiée dans le mythique magazine Métal Hurlant.
Oui, ça s'appelait Simone et Léon, c'était dans le numéro 6 de Métal Hurlant, je crois en 75, ou 76 d'ailleurs, j'ai un doute d'ailleurs. Mais oui, en fait, je savais pas trop, c'était ma toute première BD, donc je n'avais pas trop percuté qu'il y avait un format particulier. Donc j'avais fait une BD comme ça, sans vraiment délimiter les cases, en me disant ils arriveront bien à le caser. Et puis je me suis aperçu que j'avais 5 cm de marge de chaque côté dans le magazine. Et c'était au ras de la coupe, dans la hauteur, c'était un peu raté. Mais bon, c'était ma première BD, j'étais très ému. Et puis tout le monde me dit « Ah putain, ça y est, t'es publié !» Enfin, c'était très excitant.
Ça devait être une grande époque, non, le Metal Hurlant de cette époque-là, les années 70. Quand tu as amené ton projet, qui t'a reçu, Dionné, carrément Moïse Bus, Drouillet.
C'était une époque bénie pour les auteurs de BD, parce que il y avait toute une école d'auteurs qui sortaient de pilotes, qui avaient envie de créer leur propre journal. Donc il y a eu L'Écho des Savanes, Métal Hurlant, Fluide Glacial, À Suivre, tous ces journaux-là explosaient, enfin démarraient, et donc presque ils étaient presque en demande de dessinateurs. Donc on arrivait, moi j'avais même pas de bande dessinée à montrer, j'avais juste quelques petits dessins comme ça, parce que j'adorais dessiner. Et j'ai croisé, la première fois, c'était un type qui s'appelait Bernard Farkas, il travaillait chez Nathan, et il faisait partie des quatre qui avaient créé Métal Hurlant. C'est-à-dire que c'était un gestionnaire, c'était pas un dessinateur. Et lui m'a dit « Ah, mais c'est sympa ce que vous faites, et vous devriez montrer ça à Jean-Pierre Dionnet. » Alors je dis « Bon, Jean-Pierre Dionnet ?» Il me dit « Oui, le journal Métal Hurlant. » Métal Hurlant, ça me disait rien du tout, c'était un nouveau journal, et bon, pour moi c'était quasiment un fanzine. Je dis « Bon, tu sais, j'étais quand même assez humble, bien sûr, je pouvais pas me permettre de dire... » Mais je rêvais quelque part d'être dans Pilote, alors je dis « Bon, c'est un bon début, on va commencer par ce petit journal, peut-être un jour je serai dans le grand journal Pilote. » Alors je dis « Bon, je vais lui montrer, et Dionnet m'a reçu. » Il a regardé mes petits dessins, ça l'a fait marrer, il m'a dit « Écoute, fais-moi une BD, puis on verra, si elle me plaît, je la passerai, fais-moi une petite BD dans 4 pages. » Alors comme c'était un journal science-fiction, j'ai cherché une histoire où il pouvait y avoir des petits martiens, toi. Donc voilà, j'ai écrit cette histoire de Simone et Léon, c'est des petits retraités qui ont des petits martiens partout chez eux. Puis on apprend que finalement, c'est le papy qui habite là, qui a ça avec une maîtresse extraterrestre, enfin ce sont ses enfants, quoi. Et évidemment, la femme n'est pas au courant. Bon, je fais cette petite histoire, il la passe, et puis voilà, c'est parti comme ça.
Mais c'était rigolo parce qu'elle est en noir et blanc cette histoire, mais c'était déjà ton style avec du gros nez, du dessin humoristique, mais il y avait beaucoup de petites hachures un peu à la Moebius, c'était pour faire science-fiction.
Non, en fait, c'est parce que j'avais pas trouvé encore l'outil, le pinceau, quoi. J'avais pas trouvé le pinceau, je travaillais à la plume, et donc une plume, c'était une plume très dure, très fine, qui faisait des traits la taille d'un cheveu presque. Et pour noircir un peu le papier, il fallait faire de la hachure. Alors c'était un peu l'école Crum, l'école Franquin. Enfin, il y avait dans ces années-là beaucoup de gens qui travaillaient comme ça, des milliers de petites hachures, de genre Solé, etc. Donc c'était mon style. Et puis en fait, je trouvais ça très long parce que il fallait tout le temps faire des hachures. Et j'avais pas trop de souplesse dans le trait parce que la plume, soit je la maniais pas bien, soit elle était trop neuve et elle accrochait, soit le papier des fois aussi était pas bon, alors des fois ça buvait, je voyais mon trait qui partait en comme ça dans le papier, c'était horrible. Donc un jour j'ai laissé tomber la plume pour le pinceau, et du coup j'ai laissé tomber les petites hachures pour un trait beaucoup plus souple et beaucoup plus dépouillé, quoi.
Tout de suite, on écoute Bruce Springsteen avec Born to Run, une chanson qui date de 1975, l'année des débuts dans Métal Hurlant de notre invité Franck Margerin.
Machines sprung from cages on Highway 9 from wheels.
Marc Dacier. L'émission de ce soir est entièrement consacrée à la star de la BD rock, Franck Margerin. Sa première histoire, Simone et Léon, est publiée en 1975 dans le numéro 6 de Metal Hurlant, un magazine qui deviendra mythique et dont Franck était l'un des piliers.
Alors effectivement, quand j'ai commencé à dessiner dans Metal Hurlant, j'avais toujours cette arrière-pensée qu'un jour je serais dans Pilote. Et puis petit à petit, Metal Hurlant a commencé à trouver sa place. Moi aussi ma place au sein du journal, parce que je me sentais un peu décalé. Je voyais qu'ils faisaient tous de la SF, et moi je faisais du gros nez. Donc j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et puis finalement, je me suis dit, j'étais un des rares à faire de l'humour. Et du coup, j'étais remarqué et apprécié de ceux qui aimaient l'humour. Et donc finalement, c'était bien que je sois dans ce journal. Et puis Metal Hurlant a grandi, est devenu un journal culte. Enfin, ben, après, c'était le journal branché. Et Pilote était sur le déclin. Et donc je suis resté à Metal Hurlant.
Et puis finalement, il y a eu d'autres auteurs un peu dans ton style, humoristique, jeunes de banlieue, avec jeunes de banlieue de l'époque, avec Kebra, avec Dodo et Ben Radis.
Oui, il y a eu une sorte d'école, entre guillemets, mais je ne crois pas être forcément à l'initiative, enfin, un des éléments fédérateurs de ça. Je crois que c'était dans l'air, tout simplement. Les gens avaient envie de parler d'autre chose que d'aventure. Donc, ils ont commencé à parler d'eux-mêmes, donc de la banlieue, ils ont parlé de rock. Et puis voilà, j'étais un des premiers, c'est vrai, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, Metal Hurlant, qui avait vraiment une image très SF au départ, est devenu un journal presque rock. Mais c'est aussi dû beaucoup à l'arrivée de Philippe Haneuvre, qui était rédacteur en chef donc de Metal Hurlant, et qui lui a apporté ce côté rock. Et il allait faire il faisait des critiques de concerts, de tas de trucs. Il nous envoyait voir des concerts et on devait les chroniquer. C'était très sympa.
Bah, on parle de musique. Toi, tu as créé le Dennis Twist, qui est un fameux groupe de rock. Les trentenaires ou les quarantenaires se souviennent que vous avez même été dans le top 50.
Oui, alors en fait, je ne l'ai pas vraiment créé, mais on s'est retrouvé à discuter un genre, entre dessinateurs comme ça à Angoulême. Et on se rendait compte qu'on avait tous une expérience musicale. Donc Jean-Claude Denis avait un groupe. Moi, quand je l'ai connu, il jouait avec d'autres dessinateurs, dont Martin Véron, une fille qui s'appelait Caroline Dillard. Et ils avaient un groupe qui s'appelait Imaginons. Moi, avec Denis Cy, on avait un groupe qui s'appelait Los Crados. Villemain, il avait joué aussi dans un groupe. Enfin, on était tous un peu comme ça. On s'est dit, tiens, ce serait sympa pour un numéro d'Angoulême, enfin un numéro pour un festival d'Angoulême, de fonder un groupe. Alors, on a créé le Denis Twist, mais je ne suis pas vrai à l'origine forcément de ça. Disons que je faisais partie de tous ceux qui l'ont créé. Et puis on avait dans le groupe deux choristes, dont l'une des choristes avait son ex-mari, était ingénieur du son et enregistrait des disques et tout ça. Il nous a écoutés, il a trouvé ça marrant, et un jour il nous a dit, tiens, si on faisait un disque, en rigolant comme ça un peu. Et nous on a dit, ah bah oui, ce serait sympa, mais on va pas faire un disque de reprise, parce que bon, c'est pas très intéressant, on va essayer de faire des compos. Alors on a écrit des textes, on a écrit des musiques, et puis parmi tous ces titres, il y en a un qui a cartonné, c'était Tu dis que tu l'aimes. On s'est retrouvé jusqu'à la place de 10e au top 50 avec plein de stars de l'époque, et c'était impressionnant. On a fait toutes les télés de l'époque, Jacques Martin, Drucker, Sabatier, la nouvelle affiche, le truc de Jean-Luc Lahaye, le truc de Rizzoli. Enfin, on s'est retrouvé comme des professionnels, quoi. On a même fait des tournées, on avait un autocar. C'était une aventure, ça a duré un an et demi, mais c'était l'éclat. Puis après, bon, on est revenu à un niveau plus modeste, parce qu'on se rendait compte que ça nous bouffait tout notre temps et qu'on pouvait plus faire de BD. Mais bon, c'était plus pour s'amuser qu'autre chose.
Elle me suit partout où je suis. Elle me regarde dans chaque miroir. Elle est partout.
93.7.
Captivant, le magazine de la BD sur RVE vous propose ce soir une rencontre avec Franck Margerin, le créateur de Lucien le Rocker. Franck a participé à l'aventure du mythique magazine Metal Hurlant dans les années 70 et 80, une aventure qui mêlait intimement bande dessinée et musique rock. En 1986, Franck et certains de ses collègues et amis atteignent la 10e place du top 50 avec leur groupe Denis Twist. Et parmi les meilleurs auteurs du magazine Metal Hurlant se trouve également Kent, leader du groupe de rock Starshooter, qui a depuis abandonné la BD pour se consacrer entièrement à la chanson.
C'est vrai qu'entre le rock et la musique et le dessin, ça n'a à la fois rien à voir et à la fois c'est un peu un moyen d'expression jeune. Et donc il y a beaucoup de gens qui font les deux. Jean-Claude Denis est aussi bon dessinateur que musicien, ou aussi bon musicien que dessinateur. Effectivement, Kent dessinait, moi je trouve pas que c'était un très grand dessinateur. Par contre, ça tenait la route quand même, si, il y avait des trucs bien. Il y a aussi un type qui s'appelle Hubert Mounier, qui était le chanteur de l'affaire Louis Trio, qui est aussi un très très bon dessinateur. Il y a Alain Chenevière, qui avait un groupe qui s'appelait Les Alligators, et qui après était la voix de basse du groupe Poho, qui était aussi un très bon dessinateur. Tous ces gens-là ont fait de la BD. Comme je te dis, c'est très difficile de mener de front deux carrières en professionnel, donc ils ont fait leur choix. Mais il y a beaucoup d'auteurs, même dans la BD actuellement, des Jacques Ferrandez, des Fred Beltran, des Didier Cromwell, tous ces gens-là ont des groupes de rock qui tournent régulièrement. Dans le cas de Jacques, c'est du jazz, mais sinon les autres, c'est vraiment des groupes qui tournent régulièrement dans des salles un peu partout et ils arrivent quand même à faire de la BD aussi.
Franck Margerin, ton personnage le plus connu, qui te suit depuis je sais pas combien de temps, depuis 30 ans, c'est Lucien. Ce jeune de banlieue, ce jeune blouson noir avec une banane.
Bah oui, il a été créé avec ses comparses Ricky, Gilou, Riton et compagnie, justement pour un numéro spécial rock de Metal Hurlant. Quand Manœuvre est arrivé, il a eu envie d'amener le rock et il a profité que Metal Hurlant avait des numéros spéciaux à thème qui sortaient tous les 3 mois. Alors le premier, je ne sais plus, c'était genre Lovecraft, quoi, le thème. Et le deuxième, ça a été le rock. Et donc pour l'occasion, j'ai créé une bande de copains. Alors j'ai tapé un peu dans mes souvenirs de répète avec Los Crados. Donc j'ai mis dedans un copain qui ressemble à Ricky. J'ai mis mon petit frère qui s'appelle Gilou, qui est le Gilou du groupe. Et puis Riton, c'était aussi un copain qui était bassiste dans un groupe. Le nom de Ricky Banlieue vient d'un groupe qui s'appelait Ricky Beaulieu, qui était aussi un copain de l'époque. Et puis Lucien, c'était le seul qui était vraiment inventé. Voilà. Donc cette BD a eu beaucoup de succès. Moi, je me suis beaucoup amusé à la faire. C'est la première fois que j'inventais. C'est le contraire. C'est la première fois que je m'inspirais de choses que j'avais vécues au lieu d'inventer. Et je trouvais que c'était à la fois plus facile et plus amusant. Et comme elle a eu un certain impact, du coup, j'ai eu envie de les faire revenir. Et c'est comme ça que petit à petit, Lucien et ses copains se sont imposés et ont fini par devenir mes héros.
Tout de suite, on écoute Kent, le dessinateur de BD devenu chanteur, avec Les Vrais Gens, un titre de son album Bienvenue au Club, sorti en 2005.
Des sacs avec leurs vraies mains. Les vrais gens nous confondent soir et matin qu'une fois par an. Les vrais gens se font piller le cœur par des bonimenteurs. Ils croient que la télé a le sens des valeurs. Les vrais gens partent en vacances tous ensemble en même temps. Ils doivent s'y prendre un an à l'avance, sinon ils font chou blanc. Les vrais gens croient en Dieu quand ils lancent des SOS, un Dieu pas trop pointilleux sur leurs histoires de fesses. Les vrais gens viennent chez moi, et moi je viens chez eux. Les vrais gens sont chez moi, et moi je suis chez eux. Du fond de la colère, ils se plaignent de tout sans sauter la barrière. Ils ne savent plus qui croire. Les vrais gens aiment ce qui leur est facile, mais tout est difficile. Ils aiment par hasard, il suffit de leur plaire et tout devient facile. Les vrais gens aiment les grosses voitures qui roulent dans la nature. Ils aiment l'air pur et les goûts synthétiques et la bonne nourriture. Les vrais gens, quand ils rient, ont le rire jusqu'aux yeux. Leurs dents partent en vrille mais ils s'en foutent parce qu'ils sont heureux. Ils rient de tout, de rien et du malheur. Ils rient pour se faire de la chaleur. Les vrais gens viennent chez moi, et moi je viens chez eux. Les vrais gens sont chez moi, et moi je suis chez eux. C'est jamais par hasard. L'accident, la tumeur, l'arrêt du cœur, c'était facile à prévoir. Pour les vrais gens, tout est trop cher, alors ils veulent faire des affaires. Ils ont des combines, des plans d'enfer, des machins qui tombent, des camions, des trucs roumains, des imitations. Les vrais gens sont français, ils sont turcs, ils sont arabes, ils sont noirs, ils sont chinois, ils sont pakistanais, ils sont bonnes poires. Ils sont jeunes et puis ils sont vieux. Ils sont sur terre depuis si longtemps, depuis la guerre du feu. Les vrais gens viennent chez moi, et moi je viens chez eux. Les vrais gens sont chez moi, et moi je suis chez eux.
Marc Dacier.
L'émission de ce soir est entièrement consacrée à la star de la BD rock, Franck Margerin. En 1979, Franck crée dans le magazine Metal Hurlant le personnage de Lucien, archétype du rocker, banane et blouson noir. Le succès de Lucien est immédiat et il devient un héros récurrent, une popularité dont Franck est alors le premier surpris.
Bah oui, surtout qu'au départ, je m'étais dit, tiens, je vais être le seul auteur de BD, tu sais, on veut toujours faire le malin quand on débute, qui n'a pas de héros. Donc je me suis dit, je vais avoir un univers, mais chaque BD aura son héros qui disparaîtra et ce sera un suivant. Puis je me suis rendu compte que c'était vachement dur, parce qu'il fallait tout recommencer à zéro à chaque fois, il fallait retrouver des personnages, retrouver un univers. Oh là là, c'était épuisant. Et puis bon, c'est vrai que ça m'amusait pas trop, parce que en plus c'était de la SF, moi j'étais pas un grand fan de SF. Et quand j'ai créé Lucien et sa bande, bah, les personnages, comme certains, étaient inspirés directement de personnages vivants. J'avais l'impression de les retrouver des copains, il y avait un côté assez sympa comme ça. Et puis, de taper dans mes souvenirs, je me rendais compte qu'il y avait énormément de choses à raconter. Et comme c'est des choses que beaucoup de gens ont vécu aussi, parce que bon, j'ai pas vécu des choses exceptionnelles. Je raconte Lucien à la plage, à la piscine, à la patinoire, à la campagne, tous ces trucs-là. Tous les gens se retrouvent dans ces situations et c'est ça qui a fait que ça amusait les gens, quoi. Ils se disent, oh putain, moi aussi j'ai connu ça. Et donc ça a fonctionné et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et donc il y a eu une bonne alchimie qui s'est produite à ce moment-là.
En 1982, Franck Margerin crée Albert et Morissette pour le supplément hebdomadaire du Matin de Paris. Les années suivantes, il collabore aux revues Rigolo, le supplément humoristique de Metal Hurlant, Zéro, Zoulou, et très vite on retrouve les dessins de Franck partout. Il multiplie les pochettes de vinyles, les affiches de films, de concerts ou de festivals, les illustrations publicitaires. Sa patte, devenue incontournable, marque l'époque. En 1989, il supervise aux éditions Humanoïd Associés une collection d'albums collectifs, Franck Margerin présente, où on retrouve pêle-mêle vieux compagnons de route et jeunes talents. Dodo et Ben Radi, Jeannot, Trembert, Charlie Schlingot, Jean-Claude Denis, Vuillemin, Serge Clerc, Florence Sestac, Farid Boudjellal, Dupuy et Berberian, Lewis Trondheim, Stanislas, David B., etc. Parallèlement, Franck se lance dans le dessin animé. Les aventures de l'insupportable Manu sont diffusées sur la 5, puis sur Antenne 2, avant de devenir 3 albums de BD aux Humano. En 1992, à 40 ans, Franck Margerin est nommé Grand Prix de la ville d'Angoulême. Il devient automatiquement président du festival l'année suivante, un cru dont on se souvient encore avec un vague mal de tête. Après avoir imaginé le personnage de Momo le coursier en 2002 chez Albin Michel, Franck Margerin lance 4 ans plus tard une série inspirée par le couple d'humoristes Shirley et Dino. Et puis en 2008, alors qu'il n'a plus dessiné le personnage de Lucien depuis 8 ans, Franck décide de le faire vieillir. Son héros devient quinquagénaire.
Et j'ai eu envie de le retrouver. J'ai toujours fait un petit break entre chaque album pour reprendre du plaisir à retrouver mes personnages. Mais là, du coup, je me suis dit, refaire un Xème album de Lucien avec... Je sais pas, c'est un truc qui me gênait. J'ai l'impression que maintenant, il appartient presque au passé. Et je voulais pas de ça. Je me suis dit, tiens, il y a qu'un truc qui peut être bien. C'est de le faire d'abord avoir mon âge, ça me permettait de recoller au personnage et puis de parler de choses que les quinquagénaires connaissent, peut-être pas les jeunes, donc c'était amusant. Et puis je dis, les premiers lecteurs de Lucien, ils ont 50 ans maintenant, donc ils vont retrouver un personnage qui a le même âge qu'eux aussi, et puis en même temps de parler des jeunes à travers les enfants de Lucien, de parler de, et donc de mettre Lucien à nouveau dans les années 2000 avec ordinateur, téléphone portable et trucs comme ça qu'il n'avait pas dans les autres histoires.
Et la réaction des lecteurs en découvrant ce Lucien vieilli, elle a été positive?
Bon, au début ils étaient un peu déçus, ils disaient, oh, le pauvre Lucien, il a pris 30 kilos et il a pris 30 ans et puis finalement ça fait marrer tout le monde et...
Franck Margerin, merci beaucoup.
C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian et consacré à Franck Margerin. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine. We'll be right back.